On sait bien que lorsqu'on construit un immense pont suspendu, on se contente pas d'espérer que les câbles d'acier tiendront le coup face à un ouragan, tu vois.
Ouais, c'est clair, les ingénieurs font jamais de simples suppositions.
Exactement. En fait, ils font subir aux matériaux ce qu'on appelle un test de résistance en laboratoire.
Et c'est pas fait en douceur, hein.
Bah non, pas du tout. On applique une pression brutale, démesurée, vraiment continue. Et ça va bien au-delà de tout usage normal imaginable, quoi.
Juste pour voir à quel moment précis la structure intime du matériau va hurler et céder sous la tension.
Voilà, l'approche scientifique exige une certaine cruauté en fait. Placer un matériau dans des conditions extrêmes, le pousser dans ses derniers retranchements, bah c'est finalement la seule méthode rigoureuse pour isoler sa véritable force.
On retire tout le confort de la situation normale pour découvrir la nature brute de ce qui reste. C'est fascinant quand on y pense.
Et c'est exactement cette logique implacable d'ingénierie qu'on va transposer aujourd'hui, mais pas sur des poutres en métal ou des blocs de béton.
On va dans un domaine beaucoup plus complexe.
Ouais, dans le domaine abstrait de l'esprit humain, de la loyauté et de la souffrance. Et c'est d'ailleurs toute la mission de notre exploration approfondie aujourd'hui. On prend la pile de sources qu'on a reçues, des recherches, des notes vraiment incroyables, pour en extraire les pépites de savoir qui changent notre vision du monde.
Et aujourd'hui, on plonge au cœur des travaux du docteur John Walton.
Son analyse textuelle est particulièrement percutante, je trouve. Il s'attaque au livre de Job, qui est un monument littéraire absolu. C'est pas du tout une lecture pieuse ou un petit cours de théologie classique pour se rassurer.
Ah non, pas du tout. L'intention de ces notes, c'est vraiment de décoder la mécanique froide, presque clinique, je dirais, d'un véritable test de résistance divin.
Et pour bien saisir la violence de ce qui va suivre, il faut impérativement rappeler où on en est dans le récit. Avant même d'arriver à cette fameuse deuxième scène, bah la situation est déjà d'une noirceur absolue.
Le décor est déjà en ruine, en fait.
Complètement. Job, le protagoniste, vient d'affronter un premier round d'épreuves qui a littéralement pulvérisé son existence. Toutes ses richesses monumentales ont été effacées.
Et on parle d'une fortune colossale pour l'époque, hein.
Ses troupeaux de moutons, son bétail, ses chameaux, ses bœufs, genre tout a disparu. Et surtout, la tragédie absolue, c'est qu'il a perdu tous ses enfants, ses fils et ses filles, en un seul instant.
Le vide autour de lui est total. Il a été dépouillé de son statut, de son avenir et de sa descendance.
Ouais.
C'est ce qu'on pourrait appeler le niveau zéro de l'existence humaine. Et c'est précisément sur ces ruines fumantes que le rideau se lève pour notre analyse d'aujourd'hui, au chapitre 2, verset 3.
Et là, le texte nous transporte très loin de la Terre.
Exactement, dans l'équivalent d'un conseil d'administration céleste.
Décortiquons un peu ça. Parce qu'on a d'un côté Yahvé, la figure divine suprême, et de l'autre une entité mystérieuse appelée le challenger ou l'adversaire, qui se retrouve pour un nouveau débriefing.
Et c'est Yahvé qui prend la parole en premier. Il vante la résilience de Job. Il rappelle que c'est un homme exceptionnel, irréprochable et droit.
Jusque-là, on se dit que le ton est plutôt élogieux. Mais ensuite, Yahvé lâche une phrase qui, selon les recherches du docteur Walton, change absolument tout.
Ouais, la phrase en question contient une charge vraiment redoutable. Yahvé s'adresse au challenger et constate que Job maintient son intégrité, mais il ajoute un détail très troublant.
Vas-y, dis-nous.
Il dit « Bien que tu m'aies incité contre lui pour le ruiner sans aucune raison ».
Attends, je suis confuse là. Il faut qu'on s'arrête là-dessus, immédiatement.
Je m'en doutais.
Yahvé est censé être l'incarnation de l'omniscience et de la toute-puissance, non? Comment la figure suprême de cet univers peut-elle admettre, ouvertement en plus, avoir été influencée ou incitée par qui que ce soit?
C'est paradoxal, hein?
Ça semble contredire l'essence même du pouvoir absolu. Qu'est-ce que ce verbe signifie vraiment dans le texte original?
L'interrogation est totalement légitime. Et c'est là que l'analyse linguistique de Walton devient indispensable, en fait. En hébreu, la racine utilisée pour ce verbe inciter, c'est sout.
D'accord.
Et le docteur Walton précise que le verbe est conjugué ici à la forme ifil.
Waouh, on fait une pause. La forme ifil.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ceux d'entre nous qui lisent pas couramment l'hébreu ancien au petit déjeuner?
Bah, c'est un mécanisme grammatical très spécifique. Dans la grammaire hébraïque, la forme ifil donne généralement au verbe un sens causatif.
Ok, donc ça cause quelque chose.
C'est ça. Ça signifie qu'un sujet cause ou amène quelqu'un d'autre à accomplir une action. L'anatomie de cette phrase implique donc trois acteurs imbriqués dans une chaîne de commandement très claire.
Je te suis.
Premièrement, le sujet de l'action, l'instigateur. Bah, c'est le challenger. Deuxièmement, l'objet direct, celui qui reçoit cette impulsion et agit en conséquence. C'est Yahvé lui-même.
Et le troisième ?
Et troisièmement, l'objet indirect, la cible finale qui subit l'impact destructeur, bah c'est Job.
Donc, si on suit bien la chaîne, le challenger pousse le bouton, Yahvé encaisse l'impulsion et l'exécute, et le plafond s'effondre littéralement sur la tête de Job.
C'est exactement la mécanique de la phrase.
C'est quand même sidérant comme aveu venant d'un décideur divin.
Mais la grammaire ment pas sur la répartition des rôles. Et pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une erreur d'interprétation, Walton confronte ce verbe « su » à d'autres passages de l'Ancien Testament.
Et il trouve quoi ?
Dans le premier livre de Samuel, chapitre 26, on voit Yahvé, en position de sujet, inciter le roi Saül contre David, qui devient l'objet indirect. Plus tard, dans le deuxième livre de Samuel, c'est encore Yahvé qui incite le roi David contre tout le peuple d'Israël.
Ah ouais, donc c'est un schéma récurrent.
Et dans le livre de Jérémie, c'est même un humain, nommé Baruch, qui incite Jérémie contre Israël.
Il y a toujours un donneur d'ordre occulte, un acteur manipulé et une victime au bout de la chaîne.
La constance de cette structure permet d'en tirer une règle absolue, en fait. L'action d'inciter, traduite par ce verbe précis, entraîne invariablement un résultat négatif, voire désastreux, pour l'objet indirect.
La victime finale perd toujours, en gros.
C'est ça. Cependant, l'acte d'inciter n'est pas qualifié théologiquement de péché en soi dans ces textes anciens.
Ah bon ? Ok.
Bah, puisque Yahvé lui-même utilise ce procédé dans d'autres récits pour arriver à ses fins, l'action est considérée comme un outil, un simple levier de pouvoir, plutôt que comme une vraie transgression morale.
Ok, donc ce qui rend le cas de Job si dérangeant, c'est pas l'outil en lui-même, mais la dynamique de responsabilité, Yahvé assume publiquement son rôle d'objet direct.
Exactement. Il reconnaît l'influence du challenger.
Si on devait transposer cette mécanique cruelle dans le monde du travail moderne, c'est comme imaginer, je sais pas, le PDG le plus puissant d'une gigantesque multinationale.
Le genre de décideur ultime, totalement intouchable par son conseil d'administration.
Exactement. Ce PDG décide soudainement de broyer la carrière de son employé le plus fidèle et le plus productif. Il le ruine complètement. Mais, lors d'une réunion en petit comité, ce même PDG admet que cette décision catastrophique était motivée que par le défi lancé par un consultant externe.
C'est une excellente métaphore.
Le PDG endosse l'entière responsabilité de la destruction. Il a signé les papiers. Mais l'employé, la victime, tout au bout de la chaîne, lui, il voit que la signature de son PDG.
Le drame de cette asymétrie d'information est central, tu as tout à fait raison. Job a aucune idée de l'existence du consultant externe.
Il est dans le flou total.
Il sait absolument rien du défi, il ignore complètement la chaîne causale.
Il subit l'effondrement de son univers sans avoir accès au procès-verbal de la réunion. C'est terrible.
C'est le mot, ouais.
Et puisque ce PDG divin assume avoir été influencé pour déclencher cette destruction, la question géante qui s'impose à nous, c'est dans quel but ? Pourquoi valider un désastre pareil ?
Eh bien, la réponse du texte, d'après les notes, repose sur un effet de miroir linguistique d'une ironie mordante.
Je t'écoute.
Le pivot de cette justification réside dans un autre mot hébreu fondamental analysé par le docteur Walton. Le mot, c'est « rinam ».
Rinam.
C'est un terme que les linguistes qualifient de polysémique, ce qui veut dire qu'il porte plusieurs couches de sens qui s'activent selon le contexte. Parfois, il signifie simplement « en vain », comme dans le livre d'Ézéchiel.
Okay.
D'autres fois, il exprime l'idée de faire quelque chose utilement, comme on le voit dans le premier livre de Samuel.
C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que les deux autres sens de ce mot vont entrer en collision directe.
Le conflit éclate effectivement avec les deux autres nuances de Enam. D'un côté, le mot peut signifier « sans compensation » ou « gratuitement », un sens qu'on retrouve dans Jérémie.
D'accord.
Mais d'un autre côté, il est très souvent utilisé pour décrire un traitement appliqué sans cause, de manière totalement imméritée, par exemple dans le premier livre des rois.
Et ce mot unique devient en fait la clé de voûte de tout ce test de résistance. Il relie le round 1 et le round 2.
Le pont est d'une très grande sophistication rhétorique, ouais. Retournons brièvement à la première scène, au chapitre 1.
Vas-y.
Quand le challenger prend la parole pour la première fois, il attaque la réputation de Job en demandant à Dieu « Est-ce que Job te sert Enam ?» Sous-entendu, est-ce qu'il est loyal, sans compensation, gratuitement ?
C'est l'accusation classique du conflit d'intérêts, en fait. Le challenger insinue que la ferveur de Job n'est qu'une transaction commerciale.
L'argumentation du challenger est perfide. Il dit en gros « Job te vénère parce que tu l'as rendu extrêmement riche et protégé. Retire les bénéfices et la loyauté va s'évaporer. »
Et c'est là que la deuxième scène intervient.
Or, dans notre fameuse deuxième scène, Yahvé ramasse ce même mot, « inam », et le retourne contre le challenger comme une arme. Il lui dit « Tu m'as incité contre Job inam, c'est-à-dire cette fois sans raison, de manière totalement imméritée.
L'ironie est glaçante. Si on reprend notre histoire d'entreprise de tout à l'heure, c'est comme si des rumeurs de couloir accusaient l'employé modèle de s'investir autant que pour toucher ses énormes primes de fin d'année.
La fameuse compensation.
Voilà le mobile financier par excellence. Pour prouver à l'ensemble du conseil d'administration que cette rumeur est fausse, la direction décide alors de suspendre tout son salaire, de bloquer ses comptes et de le licencier brutalement. Il le ruine sans aucune raison, sans aucune faute professionnelle de sa part.
Un licenciement abusif total.
Et tout ce dispositif machiavélique n'a qu'un seul but. Observer à la loupe si cet employé continuera à chanter les louanges de l'entreprise une fois à la rue.
La métaphore résume parfaitement l'ingénierie de la scène. Pour vérifier si l'engagement était vraiment sans compensation, la direction divine choisit de frapper sans cause.
Et le pire, c'est que ça marche.
Yahvé constate froidement le résultat du test. L'incitation n'avait aucune justification liée à une quelconque faute de Job. L'expérience a réussi, l'innocence est prouvée.
Sauf qu'apparemment, ce premier succès ne suffisait pas.
Ah bah non.
Ce premier niveau de destruction massive n'a pas tant de points de rupture cherchés par les ingénieurs de la souffrance. Le Challenger exige carrément une escalade de la violence.
Walton insiste beaucoup sur le changement de paradigme entre les deux rounds de ce test. Le premier assaut a ravagé la périphérie de l'existence de Job. Il a balayé ses possessions, son bétail, sa position sociale et même sa famille.
C'est déjà horrible.
Oui. Cette perte colossale génère une angoisse mentale écrasante, celle du deuil, du vide, du déclassement soudain.
Le premier round, au final, c'est une attaque ciblée sur ce que Job a.
Exact. Mais le basculement stratégique s'opère sur la deuxième phase. Le deuxième round va ajouter une composante d'une négativité absolue en attaquant ce que Job est.
On passe à la souffrance physique ininterrompue.
La rhétorique du challenger repose sur un cynisme anthropologique très profond. Son argument, c'est que l'instinct de préservation humain est suffisamment élastique pour encaisser la perte des biens extérieurs.
Le vernis social peut tenir, quoi.
Un individu peut rester philosophe, trouver refuge dans sa propre intégrité, tant que son corps fonctionne normalement.
Mais dès que la douleur devient le seul horizon physique...
Le masque se fissure inévitablement. Le challenger parie que lorsque la souffrance s'installe au cœur même de la chair, l'intellect abdique. Les véritables motivations se mettent à hurler.
Et Dieu accepte ça?
Face à ce nouvel argumentaire, Yahvé lève l'ultime barrière de protection. Le corps de Job devient le nouveau laboratoire.
La distinction entre ces deux formes de souffrance donne vraiment le vertige. Et je me suis dit, est-ce que la tolérance à la douleur physique est si fondamentalement différente de la résilience face à la perte mentale?
C'est une bonne question.
Si on essaye de visualiser l'écart, perdre ses biens et sa famille... C'est un peu comme voir sa propre maison s'effondrer autour de soi.
Les murs tombent, le toit s'efface complètement.
On se retrouve soudainement à découvert, le vent souffle, la pluie glace le sang, on est infiniment vulnérable. On pleure devant les ruines fumantes. Mais au centre de ces décombres, on est soi-même intact. L'esprit a encore un endroit où se recroqueviller pour réfléchir, en fait.
Contrairement à la maladie.
Voilà, la douleur physique, surtout la maladie chronique, c'est comme si l'incendie se déclarait à l'intérieur même de ton propre corps. Il n'y a plus de porte de sortie, on ne peut pas fuir sa propre peau. L'attaque vise le véhicule même de la conscience.
L'image de l'incendie interne prend tout son sens clinique avec les détails terrifiants que fournit la suite du texte. L'escalade ne va pas se cantonner à une souffrance neurologique abstraite, hein.
C'est bien pire.
Elle va se matérialiser sous une forme qui entraîne une mort sociale immédiate, propulsant Job dans les bas-fonds absolus de l'humanité.
On parle bien de cette fameuse maladie de peau dont l'imagerie biblique est si célèbre, hein ?
Absolument. Les textes décrivent des ulcères malins, bourgeonnant de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne.
Mon Dieu.
Ouais, le docteur Walton fait une parenthèse super intéressante à ce sujet. Il dit que les médecins modernes seraient bien en peine de poser un diagnostic rétrospectif exact sur cette pathologie.
Ouais, on saura jamais vraiment ce que c'était.
Mais l'étiquette médicale importe peu, finalement. Ce qui compte, c'est la fonction sociologique de cette maladie dans les sociétés du Proche-Orient ancien.
C'était vu comment à l'époque, hein ?
Une éruption cutanée de cette virulence ne relevait pas seulement du traitement médical, elle déclenchait des protocoles sanitaires impitoyables. Le patient devenait rituellement impur et sanitairement très dangereux. La sentence était automatique, l'expulsion.
L'ostracisation pure et simple, quoi. On efface l'individu de la carte de la ville.
Son identité même de citoyen est annulée. Le texte mentionne alors qu'il va s'asseoir sur, je cite, « le tas de cendres ». et Walton insiste lourdement sur ce détail.
Pourquoi ?
Parce qu'il faut évacuer immédiatement l'image romantique de l'homme mélancolique assis près des braises d'un feu de camp pour méditer sur sa tristesse.
Donc c'est pas une retraite méditative au coin du feu. De quelle cendre on parle exactement ?
Dans la configuration urbaine de l'Antiquité, ce monticule de cendres situé à l'extérieur des murs, c'est tout simplement la décharge publique.
Ah ouais, la décharge.
C'est là que la cité incinère ses détritus quotidiens, mais c'est surtout là qu'on vient jeter les excréments, les déjections animales et humaines. Le fumier de toute la ville, en gros.
La réalité du texte frappe infiniment plus fort que l'allégorie romantique, en fait. Il pleure pas sagement dans la poussière, il survit au milieu des matières fécales.
La dégradation doit être totale. La maladie l'a rendu repoussant, l'exil l'a rendu invisible, et la localisation géographique le réduit littéralement à l'état de déchat.
C'est atroce.
Il n'y a aucun endroit social ou physique plus bas. Le test a atteint les fondations.
Le contraste avec sa vie d'avant donne la nausée, franchement. Imagine le scénario. Aujourd'hui, le grand philanthrope irréprochable, l'homme d'affaires respecté qui présidait une fondation caritative hier soir sous les applaudissements.
Un membre de l'élite.
Et ce matin, ses comptes sont saisis, sa famille périt, il est frappé d'une maladie défigurante et la société le force à dormir à même le sol dans les égouts à ciel ouvert de la banlieue industrielle. Et il est fuyé par absolument tout le monde. L'anéantissement est si méthodique qu'il en devient surréaliste, je trouve.
C'est une destruction clinique.
Mais qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Pourquoi l'ingénierie narrative de ce récit exige-t-elle de plonger le protagoniste du deuil à la douleur, puis de la douleur aux excréments ?
La réponse se trouve dans la stratégie rhétorique du texte, brillamment mise en évidence par le docteur Walton. L'auteur du récit construit un environnement de test où Job possède absolument toutes les opportunités rationnelles et toutes les justifications morales possibles pour maudire Dieu et abandonner la partie.
L'objectif est d'éliminer le moindre petit doute sur ses véritables motivations, en somme. Il faut isoler la variable de sa foi avec une précision chirurgicale.
C'est le cœur même de l'expérience. Si l'attachement de Job au divin était le moins du monde calculé, s'il reposait sur une forme de transaction, genre la santé florissante, le respect des pairs, la richesse matérielle, alors cette accumulation de misère garantit qu'il atteindra son point de rupture.
Il pourrait plus faire semblant.
Retirer son passé, interdire son avenir et rendre son présent insupportable par la douleur et l'humiliation, c'est la seule équation qui permet de prouver qu'une loyauté est intrinsèque et non conditionnelle. L'environnement est devenu si invivable que seule une conviction dépouillée de tout intérêt peut y résister.
Et c'est là que cette architecture textuelle antique vient percuter super violemment notre psychologie moderne, tu trouves pas ? Ça nous pousse inévitablement à une forme d'introspection très inconfortable.
Ah oui, complètement, on est obligé de se projeter.
Parce que dans nos propres vies, on évolue rarement dans des conditions de test clinique. Nos motivations, nos croyances, nos relations sont toujours entremêlées avec des compensations.
On a tous nos avantages tangibles.
Et si on nous retirait soudainement tous avantages ? Si le regard admiratif des autres, le confort de notre foyer, notre statut professionnel et même la certitude d'un corps sans douleur s'évaporaient, que resterait-il au fond du tamis ? Est-ce que notre attachement à nos principes survivrait si l'effondrement de la structure était total ?
Le livre de Job nous force à regarder cette question bien en face. Et ce décor putride de la décharge municipale prépare super bien le terrain pour la suite de l'analyse du docteur Walton.
Ah oui, avec les amis ?
C'est au milieu de ce fumier que Job recevra la visite de sa femme et de ses trois amis. Leurs dialogues ne pourront être compris qu'à travers le prisme de cette dévastation absolue. Le cadre garantit qu'il n'y a plus aucune échappatoire facile pour personne.
Le malaise est super profond, je trouve, car tout ce dispositif vient défier nos besoins psychologiques les plus tenaces. On a un besoin presque viscéral de trouver une cause, un fameux inam justifié à la souffrance.
C'est un trait humain fondamental. La nature humaine déteste le hasard et l'injustice pure. Face à une maladie soudaine ou une tragédie aléatoire, le réflexe immédiat est de chercher l'erreur, la faute, la raison cachée.
C'est vrai qu'on fait tout ça.
On préfère souvent se convaincre que la victime a fait quelque chose de mal, parce que cela nous rassure sur le fait que le monde obéit à des règles prévisibles. Le concept du karma rassure, par exemple. Il promet que si l'on agit bien, on sera épargné.
Et le chapitre 2 de Job pulvérise littéralement cette illusion sécurisante. Le décideur divin admet lui-même que la destruction s'est faite sans cause. La souffrance de Job n'a aucune valeur punitive ou éducative pour lui, puisqu'il était déjà irréprochable au départ.
C'est insoutenable pour l'esprit humain.
C'est une souffrance imposée de l'extérieur, décidée en haut lieu, dans une ignorance totale de la victime. cela brise le mythe moderne du développement personnel qui voudrait que chaque épreuve arrive pour une raison qui nous ferait grandir, tu vois.
C'est toute la puissance dérangeante de l'analyse textuelle de Wollstone. Elle nous emmène des rouages linguistiques de l'hébreu ancien, avec ce verbe « sut » à la forme causative « ifil » et les nuances complexes du mot « rinam » jusqu'à l'odeur rance de la décharge publique.
Un grand écart intellectuel.
Ce voyage relie la mécanique abstraite d'un tribunal céleste à l'agonie très concrète et imméritée d'un homme dans la cendre.
Et pour clore cette exploration, il reste une pensée qui continue de hanter l'esprit bien après la fin de la lecture de ses notes. On a vu que Job ignore tout du challenger, du pari, de l'incitation divine. Sa souffrance est authentiquement sans cause de son point de vue. Et c'est confirmé comme tel par Yahvé.
C'est le constat implacable du texte.
Mais on passe notre temps à chercher frénétiquement des leçons ou des coupables quand l'innocence est frappée. On le fait tous.
Ouais, pour se rassurer, comme on disait.
Mais si on repense à l'image initiale de notre thèse de résistance en ingénierie, peut-être que le grand vertige que nous souffle ce récit, c'est une vérité qu'on refuse d'entendre. Quand on torture ce grand pont suspendu en laboratoire, on ne lui applique pas une pression destructrice parce que ses matériaux sont défectueux ou parce qu'il mérite d'être puni, en fait.
Ah oui, je vois où tu veux en venir.
Au contraire, on les pousse jusqu'au point de rupture précisément pour prouver la pureté de leur force. La destruction n'est pas le châtiment d'une faiblesse, elle est le cruel certificat d'une résilience. Une réflexion vertigineuse sur notre propre besoin de justice a laissé mûrir longuement bien après avoir quitté les cendres de Job.